du temps. Mais moi, j'ai bien aimé ça. Et Jean, voilà, dans le film, il y a Javel, le gendarme méchant, qui poursuit Jean Valjean, le héros, tout le temps. À un moment donné, Javert est arrêté derrière les barricades, et Jean Valjean a la tâche de le mettre à mort. Et qu'est-ce que Jean Valjean fait? Mais il relâche ses mains et tire deux fois sur le sol avant de laisser partir la vie sauve. C'est ça ce que David fait ici à Saül. Mais au verset 6, son cœur battit en lui-même parce qu'il avait coupé le manteau, le pan du manteau de Saül. Peut-être parce que couper le manteau du roi était un geste symbolique. Au chapitre 15, on se plonge dans le chapitre 15, on voit que Saül a déchiré le manteau de Samuel. Et Samuel a dit, Dieu va déchirer de toi le royaume et le donner à un autre. Donc peut-être en déchirant le manteau de Saül, David était en train de dire, c'est moi qui sera le roi. Mais en tout cas, il ne veut absolument pas porter la main contre le roi choisi par Dieu. Nous voyons ça au verset 7. Il dit à ces gens que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Et verset 8, par ces paroles, David arrêta ces gens et les empêcha de se jeter sur Saül. David sait qu'il ne doit pas tuer Saül, car il est le roi choisi par Dieu. Ce serait un péché que de porter la main contre Saül. Et il parvient de justesse à empêcher ses hommes de tuer Saül. Puis, Saül se leva pour sortir de la caverne et il continua son chemin. Il remonte son pantalon, il se lave les mains, on ne sait pas trop s'il se lave les mains, pour retrouver ses troupes. Qu'est-ce que les hommes de David devaient être fâchés contre lui? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu avais l'occasion en or pour te débarrasser une fois pour toutes de celui qui veut nous tuer. Et tu ne l'as pas fait. Mais les hommes de David n'ont pas le temps de lui faire des reproches, car immédiatement, en verset 9, David sort lui-même de la caverne. Et il se met à crier derrière Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Quel respect de la part de David, n'est-ce pas? Dans ses paroles et aussi dans ses gestes, car Saül se retourne derrière lui, il voit David s'incliner et se prosterner devant le roi. Et David veut raisonner avec Saül. Il veut démontrer son innocence. Verset 10, pourquoi écoutes-tu les gens qui disent que je veux ton malheur? Et puis il apporte les preuves qu'il ne cherche pas le malheur de Saül. Verset 11, tu vois maintenant tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'a excité à te tuer, mais je t'ai épargné. Je t'ai épargné alors que j'aurais pu te tuer. Et voici la preuve, le pan de ton manteau. J'étais si proche de toi que j'aurais pu te tuer facilement. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne cherche pas le malheur pour toi. Même si toi, tu me poursuis tous les jours pour me mettre à mort. Et ensuite, David adresse sa plainte à Dieu. Il ne prend pas les choses en main lui-même, mais il s'en remet à Dieu qui va juger. Verset 13, « L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. » Verset 16, « L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. » David a la ferme conviction que Dieu va agir un jour, mais ce n'est pas son rôle de faire maintenant. Et comment Saül va-t-il réagir face à ce discours, David? Il pourrait facilement appeler les troupes et ce serait fini avec David. Mais que fera-t-il? Verset 17, il appelle David, « Est-ce toi, mon fils ?» Et il commence à pleurer. Pleurer. Pourquoi pleurer? Parce qu'il vient d'effleurer la mort, parce que sa conscience l'accusait, parce qu'il sait maintenant qu'il ne pourra pas empêcher David de devenir roi à sa place. On ne sait pas. Mais il parle à David, il reconnaît que David est plus juste que lui. Il s'étonne que David avait la possibilité de le tuer, mais il ne l'a pas fait. Verset 20, il dit, « Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin ?» Ce n'est justement pas normal ce que David vient de faire. Et Saül prie que l'Éternel récompense David pour le bien qu'il lui a fait ce jour. Maintenant, verset 21, Saül sait que David régnera et que le royaume tiendra solidement entre ses mains. Il n'y a rien qui peut empêcher le fait que David va régner maintenant. Et sachant cela, verset 22, Saül demande à David une dernière chose. Ne tue pas mes descendants, il dit. Et verset 23, David en fit le serment à Saül. Et à la fin du verset 23, David et Saül se séparent de nouveau. Saül dit à ses troupes, allez les gars, on va rentrer. On ne va plus poursuivre David. Et David, où est-ce que lui, il va? Verset 23, de nouveau vers le lieu fort, dans la forteresse. Car il sait que même si chez Saül, il y a eu un certain regret, il sait que ce n'est pas la dernière fois que Saül viendra le chercher. Voilà l'histoire de ce chapitre, l'histoire captivante. David qui épargne la vie à Saül, de Saül, même s'il aurait pu le tuer et devenir roi tout de suite. Mais quelles sont les leçons pour nous aujourd'hui? Mais la première chose que nous voyons, c'est que le Messie ne saisit pas son royaume par la force, mais suit le chemin tracé pour lui par Dieu. Le Messie ne saisit pas son royaume par la force, mais suit le chemin tracé pour lui par Dieu. Nous voyons cela ici avec David, n'est-ce pas? Il aurait pu tuer Saül et saisir la royauté, mais il ne l'a pas fait. Il a plutôt suivi le chemin tracé par Dieu qui le mène à être roi plus tard. C'est un chemin marqué par la souffrance, par l'angoisse. Non pas par la facilité, mais bien la difficulté. Et nous voyons la même chose, n'est-ce pas, avec Jésus, le Messie, le roi choisi par Dieu, le Fils de Dieu, qui a pris sur lui une nature humaine pour venir dans notre monde. Et Jésus n'a pas choisi le chemin de la facilité. Il n'a pas saisi le royaume par force. Il a choisi le chemin de la croix. Le chemin de la souffrance, de la persécution, de la moquerie, de l'abandon par ses proches. Il y a plusieurs épisodes dans la vie de Jésus qui nous montrent cela, n'est-ce pas? On pense au moment où il était tenté par le diable, en Matthieu 4. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Le diable dit, « Tu peux être roi, là, maintenant. » Sans attendre. Tout ce qu'il faut faire, c'est m'adorer. Et qu'est-ce que Jésus répond? Verset 10, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Jésus a refusé le chemin de la facilité, une accession rapide au trône sans souffrance, et il a suivi le chemin tracé par son Père. C'est ce que nous voyons aussi au chapitre 8, de l'évangile de Marc, avec Pierre. Pierre vient de reconnaître que Jésus est le Messie, le Christ, le roi promis. Et Jésus commence à leur apprendre qu'il doit souffrir beaucoup, être rejeté par les hommes, être mis à mort, et seulement après, ressuscité. Et Pierre, à ce moment-là, il le prie à part, il dit à Jésus, mais... Attends, Jésus, ça c'est un peu chaud. Voilà. Toi, tu vas régner. Toi, tu es le roi. Tu ne vas pas souffrir. Non, tu vas être le roi maintenant. Tu vas régner sur toutes les nations. Il ne faut pas que tu passes par la croix pour cela. Et comment Jésus répondit? Arrière de moi, Satan. Car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Lorsque Pierre encourage Jésus à ne pas suivre le chemin de la croix, c'est satanique et purement humain. Il faut suivre le chemin de la souffrance avant d'entrer dans la gloire. C'est ce que notre Sauveur a fait. Et nous le voyons encore une fois lorsque les soldats viennent arrêter Jésus. En Matthieu 26, un de ses disciples tira son épée et frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et qu'est-ce que Jésus dit? remets ton épée à sa place. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 10 000 anges? Il aurait pu résister comme un roi humain. Il aurait pu invoquer son Père qui aurait envoyé des milliers d'anges à son secours et vaincre ceux qui voulaient sa mort. Mais il ne l'a pas fait. Il a suivi le plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous sauver. Il savait que c'était par sa mort à la croix seule qu'il pouvait sauver les pécheurs comme vous et moi. Car sur la croix, il a porté sur lui la punition que nous méritions pour nos fautes. Et il offre le pardon à toute personne qui croit en lui. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas couronné Jésus sans la souffrance? Car il voulait sauver tous ceux qui croiraient en son nom. Et la question pour nous tous ici ce matin, c'est: est-ce que vous avez fait cela? Est-ce que vous avez placé votre confiance en Jésus seul pour être sauvé? C'est la seule façon pour avoir le pardon de nos péchés, pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas en devenant plus religieux, en assistant un peu plus à l'église, en faisant de bonnes choses. Non, c'est par la mort de Jésus à la croix. Et si vous avez déjà placé votre confiance en lui, ne devrait-on pas être dans la joie et le remerciement face à ce que Jésus a subi pour nous? Comme David aurait pu tuer Saül dans la grotte et épargner beaucoup de souffrance pour lui-même, Jésus aurait pu éviter la souffrance, mais il ne l'a pas fait, précisément pour nous sauver. Quel sauveur merveilleux que nous possédons! Et non seulement il est notre sauveur, mais aussi notre modèle à suivre. Nous suivons un sauveur qui a attendu avant d'entrer dans la gloire. Et ça, c'est la deuxième leçon que nous allons tirer de cet épisode. Nous aussi, nous devons attendre et souffrir avant d'entrer dans la gloire. Nous devons attendre et souffrir avant d'entrer dans la gloire. Dans la vie, nous cherchons souvent le chemin de la facilité, n'est-ce pas? Si vous sortez du métro, il y a un escalator et un escalier. Lequel est-ce que vous allez choisir? Peut-être on a des grands sportifs ici qui vont choisir l'escalator, mais moi je vais l'escalier. Mais moi je vais choisir l'escalator chaque fois. Nous n'aimons pas souffrir ni attendre dans la vie. Et nous souhaiterions que Dieu pense la même chose, qu'il choisisse de faire venir son royaume instantanément. Peut-être qu'au moment de devenir chrétien, Dieu pourrait nous évacuer de ce monde, comme des hélicoptères qui évacuent des civils, des zones de conflit. Mais il ne le fait pas. Non, nous avons vu avec David qu'il a suivi le chemin tracé par Dieu pour devenir roi. Jésus a fait de même en allant à la croix. Et 1 Pierre 2 nous dit que Jésus nous a laissé un exemple. Il dit que c'est à la souffrance que vous êtes appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Le chemin vers la gloire éternelle pour le chrétien est un chemin lent, ardu et plein de difficultés, de défis. Et que, dans un sens, comment cela pourrait-il en être autrement? Si nous voulons ressembler à notre Sauveur, il faut le suivre sur le chemin de la croix. C'est ce qu'il dit lui-même en Marc 8. Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. L'apôtre Paul dit aussi en Acte 14, on lit dans le texte qu'il voulait encourager les chrétiens dans les églises. Et si vous voulez encourager quelqu'un dans la foi, qu'est-ce que vous allez dire? Et voici ce que Paul dit pour encourager les chrétiens. Il dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. De quoi nous encourager pour persévérer? La vie du chrétien n'est pas une vie facile, parsemée de victoires sans fin. Non, la vie chrétienne est difficile. Et c'est très important de comprendre cela. Car si nous ne sommes pas avertis, nous risquons de baisser les bras. Il y a des églises qui enseignent que Dieu nous promet le bonheur, la bonne santé et la richesse maintenant. Que dans un sens, on peut avoir le paradis, ce que Dieu nous promet pour l'avenir, on peut l'avoir maintenant, dès à présent. Et on appelle ça parfois l'évangile de la prospérité. Mais cet enseignement va tout à fait à l'encontre de ce que la Bible dit. La Bible dit qu'il faut attendre. Le bonheur parfait arrive, mais ce n'est pas pour maintenant. La guérison parfaite arrive, mais ce n'est pas promise pour maintenant. La richesse matérielle arrivera dans la gloire, mais ce n'est pas pour maintenant. Nous sommes attirés par ce genre d'enseignement, n'est-ce pas? Parce que nous voulons le paradis ici-bas, mais nous ne voulons pas attendre. Nous devons nous méfier de tels enseignements. Parce que si on n'est pas préparé mentalement à attendre et à souffrir, on va vite baisser les bras dans la vie chrétienne. Je ne sais pas si parfois vous passez à la commune pour faire effectuer des démarches. Est-ce que vous avez été à votre commune récemment? Et vous dites, voilà, j'ai la démarche à faire, ça va être vite, ça va prendre 10 minutes, je vais aller durant la pause de midi, voilà, j'y vais, voilà, je pars, facile. Et voilà, vous arrivez, vous êtes déçus parce qu'il y a une file énorme et il faut attendre de longs moments. Et vous êtes, voilà, vous voulez jeter l'éponge et partir et revenir à un autre moment. Mais si vous êtes préparé pour cela, si vous avez pris congé tout le matin pour aller vous apporter un livre avec vous pour lire dans la file ou du travail à faire, voilà, vous allez persévérer, vous allez enfin arriver en tête de la file pour entamer la démarche. Si nous sommes avertis, nous sommes préparés mentalement pour pouvoir persévérer. Et c'est la même chose dans la vie chrétienne. J'ai de très bons amis qui s'appellent Joe et Steph. Lui, il est britannique, elle est allemande. Et ils sont mariés depuis, je pense, 5-6 ans maintenant. Et avant, ils sont chrétiens tous les deux, mûrs. Et avant de se marier, ils ne se sont jamais disputés. Jamais. Mais dès le moment qu'ils se sont mariés, ils ne cessent de disputer. Ils ne font que ça. Il y a des périodes où ils n'arrivent pas à parler parce qu'ils font cela. Et maintenant, ils ont une fille qui s'appelle Holly. Elle est très mignonne, mais elle a des problèmes à l'estomac et elle n'a jamais dormi toute la nuit. Elle a 2 ans maintenant. Vous imaginez pour les parents ce que ça ajoute déjà à la difficulté relationnelle qu'il y a. Mais Joe et Steph savaient, avant de se marier, que la vie chrétienne est une vie de souffrance. On ne s'attend pas à vivre à la perfection ici-bas. La perfection, c'est pour le monde à venir. Et donc, ils étaient préparés pour cela. Ce n'est pas facile. Je prie pour eux. Je parle avec eux. Mais dans un sens, je suis moins préoccupé pour eux que pour quelqu'un qui pense qu'il peut trouver la perfection ici-bas. Que la vie chrétienne, c'est un long fleuve tranquille, qu'il n'aura jamais à souffrir. Joe et Steph, ils vivent ça dans la grâce et dans le pardon réciproque, en essayant d'améliorer les choses. Mais ils ont été avertis que la vie chrétienne est dure et difficile. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Parce que sinon, vous allez avoir envie de baisser les bras. Et c'est important que nous parlions de cela avec des gens qui ne sont pas encore chrétiens. Nous voulons que nos amis deviennent chrétiens, placent leur confiance en Jésus pour avoir la vie éternelle. Et peut-être que vous, ici, vous n'avez pas encore fait cela. Nous aimerions que vous veniez à Jésus. Mais on ne veut pas vous donner l'impression que la vie chrétienne est une vie plus facile que de rester non-chrétien. Comme si tous les problèmes que vous avez maintenant sont réglés le moment que vous venez à Jésus. Non. Jésus dit, dans un sens, vous aurez davantage d'ennui. Dans un sens, vous allez en plus avoir la persécution de fait de suivre Jésus. Il ne faut pas croire que tous nos problèmes vont disparaître. Bien sûr que suivre Jésus, ça aide à tous les domaines de la vie. Cela nous donne une joie, une force pour persévérer. Mais ce n'est pas une vie facile. Et il faut qu'on avertisse les gens de cela. J'avais un ami, Adam. On avait parlé à lui de l'Évangile. Il semblait devenir chrétien. Et puis il est rentré pour voir sa famille. et son papa non chrétien en particulier. Et je ne pense pas qu'on l'avait préparé suffisamment pour la réaction hostile de son papa. Et du coup, il est rentré après les vacances et il a dit « Je ne veux plus rien entendre parler de Jésus maintenant. » Il n'était pas prêt à la souffrance de suivre qu'on vit lorsqu'on suit Jésus. Et peut-être vous faites face à la frustration, à la fatigue actuellement. Vous ne vous rappelez plus quand vous avez dormi plus de 5 heures la nuit. Vous vous retrouvez seul à la maison avec les enfants. Vous devez travailler à temps plein et vous ne voyez pas comment vous allez vous en sortir. Peut-être souffrez-vous dans votre couple des disputes, différences d'opinion. Vous ne savez pas si les choses vont changer. Peut-être vous voulez vous marier, vous ne trouvez pas la bonne personne, vous voulez avoir des enfants, mais ce n'est pas possible. Peut-être trouvez-vous la vie très frustrante, remplie d'embûches pour l'instant. Et il vous arrive souvent de vous demander, mais pourquoi les choses ne sont-elles jamais simples dans la vie? Mais si vous êtes chrétien et vous vivez cela, sachez que c'est normal. Vous avez envie que Dieu agisse maintenant pour régler la situation et vous ne comprenez pas pourquoi il ne le fait pas. Mais le modèle biblique que nous voyons chez David, que nous voyons chez notre Sauveur, est le modèle que nous devons suivre. Avant la gloire, la souffrance. Avant la couronne, la croix. Avant la perfection, la frustration. Avant l'euphorie, les larmes. Il y a un cantique qui dit ceci, « Repose-toi, jamais Dieu ne t'oublie. Et l'heure est proche où Jésus va venir. Tu comprendras les peines de ta vie et tu verras qu'il voulait te bénir. Oh, que ta foi honore et glorifie Dieu qui t'aima pour l'immense avenir. » Notre voyage vers le ciel sera long, ardu, rempli de souffrances et de larmes. Il nous faut attendre comme David a fait. Il nous faut attendre comme Jésus. Gardons nos yeux fixés sur le moment où nous verrons Dieu face à face et toutes nos souffrances, frustrations et difficultés connaîtront une fin. Mais persévérons maintenant, faisant confiance en Dieu et suivant l'exemple donné pour nous par David et par notre Sauveur. Prions ensemble. Notre Père, nous te louons pour le rappel de ce matin que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume. Merci parce que David n'a pas saisi le royaume par la force, mais il a attendu le moment prévu par toi. Merci parce que Jésus aussi, il a attendu, il a souffert, et cela pour nous sauver. Et nous te prions que nous puissions attendre avec persévérance et patience, avec joie, sachant qu'il y a un destin glorieux qui nous attend, mais sachant aussi qu'il y a une attente maintenant de la souffrance, des larmes. Et que nous puissions nous en remettre à toi, toi qui vas agir un jour, et que nous fixions nos yeux sur la croix et sur le retour de ton Fils. C'est en son nom que nous te prions. Amen.
Merci, Roby. Nous allons chanter.